Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Mater Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Aujourd'hui, on va parler de pollution dans l'eau et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Manon Dallacosta. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es doctorante en deuxième année au LASIR. Ton sujet de thèse s'intitule « Origine et devenir de résidus médicamenteux émergents dans les écosystèmes aquatiques de surface ». Focus sur les substances à base de gadolinium et de platine. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ta thèse en quelques mots ?
Alors pour vous résumer ma thèse, on va juste dire que c'est l'observation de médicaments dans l'environnement et plus précisément dans l'eau. Et je m'intéresse essentiellement donc à un suivi de ces médicaments dans la rivière et une des rivières de notre région, la Marque. Cette thèse, elle est du coup réalisée au laboratoire du LASIR, qui se situe donc ici à la Cité Scientifique, et également avec l'équipe IMPEX du CHU de Lille.
Ok, alors justement, pourquoi suivre des médicaments ?
Alors, il faut savoir que notre société rejette énormément de polluants divers et variés dans l'environnement, que ce soit dans le sol ou dans l'eau notamment. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, plus particulièrement, donc, c'est l'eau. Et il faut savoir que l'eau est régie par un petit cycle, qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Donc, pour vous faire un petit résumé de ce cycle, l'eau est prélevée en fait dans les nappes phréatiques ou dans les rivières et ensuite rendue potable dans des usines de potabilisation pour être distribuée donc un peu à tout le monde, donc que ce soit dans nos maisons, dans nos établissements scolaires, de santé ou encore dans les usines. Et cette eau est ensuite retrouvée dans les égouts, qu'on appelle donc des eaux usées, pour être retraitée dans les stations de traitement des eaux usées. Et c'est dans ces stations qu'en fait sont régulées et contrôlées la pollution des médicaments, donc le sujet qui m'intéresse. Cette pollution, elle est visible dans l'eau, donc ça veut dire qu'il y a une défaillance au niveau de nos stations. Et du coup, l'importance est de suivre ces médicaments pour suivre cette pollution au cours de la rivière.
Donc ça veut dire qu'il y a des limites aux techniques de traitement des stations.
Oui, tout à fait. Malheureusement, toutes les stations ne sont pas en capacité de tout traiter, ni de le faire à 100%. Je peux vous prendre un exemple, par exemple le paracétamol, un médicament que tout le monde connaît et utilise. Il est traité à 90%, donc c'est assez important. Mais on peut prendre un autre médicament comme le diclofénac qui lui est traité qu'à seulement 20%. Donc on voit bien qu'il y a une élimination qui diffère entre les molécules, entre les médicaments. Mais on peut également voir des différences en fait à l'intérieur des structures des stations, c'est-à-dire qu'en fait toutes n'utilisent pas les mêmes procédés de traitement et il faut aussi savoir que des dysfonctionnements peuvent avoir lieu, notamment au niveau de mauvais raccordements, des tuyaux un peu trop usés et du coup des fuites peuvent avoir lieu et on se retrouve donc avec des infiltrations d'eau usée dans nos sols et dans nos rivières un peu diluées, mais on les retrouve.
Et justement du coup comment on pourrait contourner ces limites de traitement ?
Alors contourner, c'est un grand mot, j'ai envie de dire. Il faut savoir que finalement, on va avoir plus un but. Le but ici, ce serait de contrôler un peu mieux cette pollution et de savoir d'où elle vient. Donc actuellement, on a des traceurs, donc ça, c'est des composés, hein, ça peut être la caféine comme un élément comme le pH ou la conductivité, qu'on va suivre et qui va nous informer s'il y a une différence à un point ou à un autre de la rivière et du coup nous informer sur une pollution. Malheureusement, on a des nouvelles pollutions. Et ces nouvelles pollutions, du coup, nous nécessitent des nouveaux traceurs de pollution anthropique. Alors, anthropique, c'est le fait de... En fait, c'est une pollution qui vient de l'homme. Donc, c'est quelque chose que nous avons rejeté dans l'environnement. Et donc, moi, je suis ici et j'interviens ici pour étudier ces médicaments et si on peut trouver, finalement, dans un de ces médicaments, un nouveau traceur anthropique et donc l'utiliser pour suivre et contrôler et du coup, essayer de contourner ses limites.
Mais alors, comment ça se fait qu'il y a des médicaments, justement, dans les eaux usées ?
Alors, il faut savoir qu'il y a différentes voies de contamination. On en appelle des diffuses comme des ponctuelles, mais celle qui va vous parler le plus, c'est le rejet domestique, ce que nous rejetons dans la nature. Il faut savoir que du point de vue des médicaments, on en ingère, on peut également s'en injecter via des solutions liquides, mais Ensuite, par absorption dans le corps, elle est ensuite rejetée. Donc en fait, il faut savoir que ces médicaments, on les rejette aux toilettes, tout simplement. Mais on peut aussi parler des crèmes antibiotiques, des crèmes hydratantes. Toutes ces crèmes vont être en partie absorbées par la peau, mais elles vont aussi être rejetées lors de la prise de la douche, par exemple. Ensuite, on a des rejets qui sont un peu plus importants, comme les rejets hospitaliers, qui forcément rejettent énormément de médicaments au cours de la journée. Mais on peut aussi parler des rejets des usines, des industries chimiques et pharmaceutiques qui vont créer des effluents. Et du coup, c'est ces effluents avec nos rejets domestiques qui vont vers les stations et qui vont donc nous permettre de retrouver ces médicaments dans les stations.
Et donc toi, dans ta thèse, tu étudies quel type de médicaments ?
Alors j'en étudie actuellement trois grandes familles. Alors je parle de grandes familles parce que du coup, ma première famille, c'est les médicaments organiques. Il faut savoir que tous les médicaments que vous retrouvez en pharmacie et qui ne contiennent pas, par exemple, un métal dans leur composition chimique, ce sont des médicaments organiques. Donc, l'exemple, paracétamol, c'est un médicament organique. Ensuite, je vais parler des agents de contraste. Donc, c'est des agents qu'on utilise lors de scanners ou d'IRM, par exemple, pour justement avoir une intensité du signal et du coup un contraste d'image plus important. Et il y en existe plusieurs également, hein, par exemple avec de l'iode, donc un autre composé. Mais moi, je vais m'intéresser au gadolinium. Comme vous l'avez très bien dit dans mon titre, on a un focus sur le gadolinium. Et donc, on va s'intéresser aux agents de contraste à base de gadolinium qui sont de l'ordre de 6 en France, avec trois composés qu'on utilise majoritairement en France, donc le Dotarem, le Gadovist et le Proance, pour ceux qui connaissent. Et il faut savoir qu'ils sont très intéressants parce que les stations de traitement des eaux usées ne les traitent pas du tout. Donc en fait, on les retrouve telles quelles dans nos rivières. Et donc, ça nous fait impossiblement un nouveau traceur à étudier prochainement. Et la dernière grande famille, donc, ce sont des anticancéreux à base de platine ici. Donc comme le nom l'indique, ce sont des médicaments qu'on utilise contre le cancer. On en utilise trois en France, le cisplatine, le carboplatine et l'oxaliplatine. Mais il faut savoir que c'est des médicaments que l'on retrouve à des concentrations très très faibles dans l'environnement, inférieures au nanogramme par litre. Et du coup, actuellement, dans ma thèse, c'est très compliqué de l'étudier. Donc je pense que pour la suite de cette interview, ce sera une partie que je vais un peu négliger lors des réponses.
Donc tu étudies comment ils se dégradent, ce qu'ils deviennent. Est-ce que tu as déjà des réponses à ces questions ?
Alors dans la littérature, il y a déjà des réponses, il y a énormément d'études. Par exemple, pour les médicaments organiques, on va dire que c'est un sujet qui concerne tout le monde dans le monde entier et depuis longtemps. On en utilise depuis longtemps ces médicaments. Donc énormément d'études sont faites sur ces médicaments et je pense que ma thèse ne servira à rien pour savoir comment se dégrade-t-il parce que c'est très étudié. Néanmoins, concernant les agents de contraste, des études ont été faites, de façon moindre, bien sûr, mais elles sont aussi plus récentes, parce que ce sont des composés qu'on s'est rendu compte de leur présence dans les eaux assez récemment. Il faut savoir que dans les études, ils parlent de conditions assez extrêmes pour les dégrader, donc ça ne concerne pas du tout nos rivières, donc ils sont très stables dans nos rivières. Néanmoins, j'ai réussi à faire des petites études de stabilité au laboratoire, donc je peux vous dire que, en tout cas, dans mes conditions, il faut des pH soit très bas, donc très acides ou très basiques, pour qu'il y ait une éventuelle dégradation. J'ai fait des études également sur la salinité. Pourquoi la salinité ? Parce qu'il faut savoir que toutes nos rivières vont se rejeter dans la mer, donc à partir du moment où les composés vont se retrouver dans une atmosphère, on va dire, saline. Donc j'ai fait des études sur la salinité qui ne prouvent pas une certaine dégradation de ces composés. Et on est en train de tester la transmétallation. Donc en fait, c'est le fait d'avoir un métal qui se substitue à un autre métal. Et du coup, notre métal ici, ce serait le gadolinium, qui va se substituer par un autre métal qui est présent naturellement dans l'eau ou pas. Hein. On peut parler comme du cuivre, du zinc ou du manganèse qui sont présents dans nos eaux. Et donc, c'est un peu des tests qu'on est en train de faire, mais il s'avère que sur un des 6 composés des agents de contraste, le cuivre et le zinc pourraient potentiellement dégrader, en tout cas avoir ce changement de métal. Mais il faut savoir que pour réaliser ces études de dégradation, il faut donc faire des campagnes de terrain. Donc le but, c'est d'en faire plusieurs, mais bien sûr à différentes périodes de l'année.
Pourquoi justement à différentes périodes de l'année ?
Il faut savoir que nous avons des consommations en médicaments qui sont variables en fait dans l'année. Via l'assurance maladie, par exemple, vous pouvez très bien aller sur leur site, on va avoir un Excel de tous les médicaments qui sont vendus en France, avec du coup leur pourcentage et leur vente en boîte, normalement c'est en boîte, en fonction de chaque mois. Donc on va avoir une consommation en janvier qui va être peut-être identique à celle de février. Et j'ai pu remarquer, en tout cas je parle pour les agents de contraste à base de gadolinium, qu'on a une variation très prononcée entre la période juin, juillet, août et la période hivernale. Et on peut se poser du coup des questions sur quels sont les facteurs qui du coup induisent ces différentes périodes de consommation. Et il faut savoir que il y a les vacances. Les vacances, souvent on est de moins malade, mais du coup on utilise moins de médicaments. Mais on peut aussi parler des maladies qui ne sont pas les mêmes au cours de l'année et qui du coup n'arrivent pas en même proportion, que ce soit en hiver qu'en été. Et du coup cette différence de médicaments peut se ressentir à ce niveau-là. Il faut savoir que la rivière, elle subit aussi des différences selon les changements météorologiques. Donc entre un temps de pluie, un temps sec, un temps chaud ou un temps froid, on va avoir des variations sur la rivière elle-même et du coup des variations sur nos médicaments dans la rivière.
Et j'imagine qu'il y a des différences aussi par rapport à la température, à la chaleur ?
Alors oui et non. Pourquoi oui et non ? Parce que la chaleur, elle a un impact sur l'eau, ça a été prouvé, l'évaporation, c'est le grand cycle de l'eau, hein. Dès qu'il y a un peu de soleil, l'eau s'évapore, mais les médicaments, eux, ne vont pas s'évaporer avec l'eau. Donc, on est dans des conditions, on va dire, multifactorielles, donc en fait, c'est un peu compliqué de vous dire que la chaleur va jouer un seul rôle et elle ne va pas induire le même rôle dans un ou dans l'autre médicament, enfin, c'est assez compliqué, donc on va avoir des résultats qui vont être variables et incertains sur l'année, mais on peut aussi l'observer sur la journée. Et si je vous prends un exemple, par exemple en temps de pluie, a priori on pourrait se dire que les médicaments vont subir une dilution parce qu'il y a plus d'eau, mais les stations de traitement des eaux usées n'ont pas les traitements appropriés lors des temps de pluie. Et en fait, on peut se retrouver avec une concentration plus importante en temps de pluie que ce qu'on aurait voulu avoir. Donc oui, il y a des différences avec la chaleur, mais ce n'est pas que le seul facteur à prendre en compte.
Et comme tu l'as dit précédemment, tu étudies la rivière de la Marque. Alors pourquoi avoir choisi cette rivière ?
Alors, premier critère et le plus pratique, c'est que en fait, elle est juste à côté de la cité scientifique. Donc lors des campagnes terrain, on est à côté, il y a un dépassement qui est un peu moindre à faire, avec du coup toutes nos caisses avec de matériel qui du coup... C'est d'un point de vue pratique, elle est à côté de chez nous, il faut en profiter. Et voilà. Le deuxième point, qui est un peu plus, on va dire, scientifique et important, c'est qu'en fait, cette rivière, qui fait plus d'une trentaine de kilomètres, elle est jalonnée par 8 stations de traitement des eaux usées. Donc en fait, on pourrait presque dire que la rivière de la Marque est créée par les stations de traitement, même si elle a une source qui est bien naturelle et qui est présente à Mont-Saint-en-Pével. Et du coup, cette Marque, elle va, après ces 8 stations, se rejeter au niveau de la Deule, à Marquette-les-Lille, ce qui, du coup, en fait... on va dire une candidate assez intéressante parce qu'elle est très polluée malheureusement et du coup pour mes analyses c'est assez facile et important.
Et justement comment se déroulent ces analyses ?
Alors il y a plusieurs étapes, je vais en dire trois, c'est les plus grosses on va dire. La première étape, donc comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des campagnes terrain qui vont se faire donc, à différentes périodes de l'année. Il y a une méthodologie qui est assez stricte pour éviter toute pollution lors des prélèvements, qui peuvent aussi se faire lors des campagnes terrain, des traitements. Donc en fait, sur place, je peux également faire des filtrations, faire des acidifications qui peuvent induire du coup une pollution dans mon flacon d'échantillon. Ensuite, il y a la Marque, comme je vous l'ai dit, elle fait à peu près plus de 30 km. Donc il faut réussir à faire ça sur toute une journée. Donc depuis tout à l'heure, je dis « on », mais en fait, il faut savoir qu'on est deux équipes de trois personnes pour réaliser donc 23 points d'échantillonnage le long de cette rivière, avec en plus, on a la chance d'avoir Marquette-les-Lille et Villeneuve-d'Ascq qui ont des stations très importantes et qui nous fournissent donc des échantillons moyennés sur 24 heures sur cette même journée pour avoir le maximum d'échantillons et du coup le maximum d'analyses. Et du coup, après cette campagne d'échantillonnage, il faut bien sûr parler d'analyse. Donc on en fait plusieurs, il faut dire, il y en a énormément. On fait les 10 les plus communes comme le pH, l'analyse du carbone organique, de l'azote total, la conductivité, enfin voilà, la turbidité, et j'en passe. Ce sont des analyses assez communes et qu'on fait régulièrement. Et ensuite, pour une analyse un peu plus complète, moi, je vais rajouter des analyses sur des anions, sur des terres rares, sur des métaux en total, donc avec des concentrations en total. Et puis pour ma thèse, comme dit précédemment, je vais faire des analyses sur les médicaments organiques, donc qui vont être réalisées par une machine, donc c'est une LC-MSMS qu'on utilise donc au Centre de pathologie et biologie du CHU de Lille. On utilise également une HPLC-ICP-MS, donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est, je vais tout de suite vous expliquer. Mais du coup, cette méthode, il faut juste savoir que je l'utilise pour les agents de contraste à base de gadolinium. Et je l'effectue donc à Chevreul, à l'Institut Chevreul, dans le laboratoire des neufs de l'équipe PCA. Donc en fait, l'HPLC-ICP-MS, si on découpe, en fait, c'est une HPLC, c'est une chromatographie liquide, et en fait, c'est la partie qui va nous permettre de séparer nos composés. Selon la colonne qu'on utilise, donc moi j'utilise une colonne ionique qui nous permet du coup de séparer selon la charge ionique du composé. Sur nos agents de contraste, il faut savoir qu'il y en a qui sont non chargés, donc qui ne portent pas de charge, et il y en a qui sont chargés négativement moins 1, négativement moins 2, et du coup ce qui nous permet de les séparer selon leur charge. Ensuite vient l'ICP-MAS, donc ça nous permet ici de quantifier ces composés qui ont été préalablement séparés, mais du coup on peut les quantifier selon leur masse et on se retrouve donc avec un gros panel de résultats qui nous indique la concentration d'un des composés. Et pour finir le platine, donc j'ai dit que j'allais très peu en parler, mais il faut savoir qu'on utilise la même méthode que pour le gadolinium. Et après tout ça, on a des résultats et puis la grosse partie, les traiter.
Et justement, cette thèse, à quoi elle va servir dans le futur ?
Alors, il faut savoir que ma thèse, elle est financée à 50% par l'Agence de l'eau, Artois Picardie, et 50% par la région de France. Donc, ça nous permet d'avoir des valeurs de suivi sur plus d'un an. Du coup, je vais faire des analyses sur plus d'un an. Et il y a aussi, on va dire, une démarche de One Water, One Health, donc c'est-à-dire, en fait, une seule eau pour une seule santé, pour les organismes. Il faut savoir que les organismes, c'est aussi nous. Donc, en fait, il faut travailler sur notre santé, donc sur la santé des organismes, pour comprendre les pollutions et du coup comment les combattre.
Et justement, est-ce qu'à notre échelle, on peut limiter ces pollutions ?
Alors oui, il y a plusieurs façons. Hein. Le plus simple serait de diminuer notre consommation en médicaments. On est malheureusement dans une société qui, des fois, pour une simple gêne, on va tout de suite prendre un Doliprane pour se soulager. Et en fait, rien qu'en limitant notre prise de médicaments, du coup, on limite notre rejet. Ensuite, faut savoir que je fais de la médiation scientifique auprès de primaires, et c'est vrai que les enfants me disent que les parents jettent leurs médicaments périmés soit dans la poubelle, soit aux toilettes, et du coup, ça se retrouve directement dans nos stations d'épuration et du coup dans nos rivières. Donc oui, il y a quelque chose à faire sur nos rejets personnels, on va dire nos rejets domestiques.
Et est-ce que ces pollutions représentent un danger ?
Alors, c'est un peu comme la question précédente où je vais répondre par oui et non. En fait, théoriquement, sur le papier, oui, c'est un danger. Malheureusement, il y a beaucoup d'études qui vont traiter d'un seul paramètre sur, par exemple, le taux d'exposition, le taux de concentration à un seul médicament, mais on va très peu parler de l'effet cocktail qui, du coup, commence à être étudié, mais c'est très, très compliqué à prévoir. Donc, il y a un danger, oui, même imminent pour la faune et la flore de cette rivière, mais également pour nous, que ce soit de façon directe si on plonge dedans ou si on veut boire cette eau de rivière, mais également de façon indirecte parce que nous vivons dans un écosystème et si l'écosystème ne se porte pas bien, nous, on ne se sent pas bien également.
Eh bien, merci Manon pour ces premières réponses. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec le morceau Radio Song de Superbus.
Jamais assez, je suis vite lassée.
De retour pour la deuxième partie de cet épisode de Maté Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Manon, une doctorante de deuxième année. Alors, je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ton parcours et tes motivations, les motivations qui t'ont amené à faire de la recherche. Alors déjà, quelles études as-tu suivies ?
Alors, j'ai commencé au plus simple avec un bac scientifique, bon, avec une spécialité physique-chimie, parce que ben, mes motivations sont très, 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 très scientifiques. Donc, j'adore les maths, j'adore la physique et la chimie. Et ensuite, c'est assez, on va dire, bêtement, en parlant avec ma professeure de physique-chimie qui m'a parlé de l'école d'ingénieurs à Lille, donc ici sur la cité scientifique, j'ai décidé d'aller faire un petit tour aux portes ouvertes. Et puis, c'est vrai que ça m'a bien plu, le circuit, on va dire, prépa intégré suivi d'une école d'ingé m'a beaucoup plu. Et bah voilà, me voilà lancée à faire une prépa intégrée à l'école de chimie de Lille. Donc c'est 2 ans qui se résument, on va dire, comme une prépa classique, mais avec des cours un peu plus chimiques que les autres prépas. Et en fait, l'avantage, c'est que je peux rejoindre une des écoles de cette fédération Gay-Lussac. Donc en fait, à la fin de ces 2 ans, malgré un contrôle continu pour savoir si je peux valider ou pas ces 2 ans, contrairement à la prépa classique, je ne dénigre pas la prépa classique, mais qui elle, du coup, au bout de 2 ans, on a seulement un concours final. Là, je sais qu'en contrôle continu, si j'ai une moyenne assez élevée, je peux avoir mon premier choix d'école pour l'ingénieur. Et c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai pu avoir ma première école dans ma liste de vœux, donc qui était l'école de chimie de Rennes. Donc j'ai déménagé à Rennes pour effectuer donc un parcours axé sur l'analyse et l'environnement, donc qui m'intéresse encore aujourd'hui avec mon sujet de thèse. Mais je trouvais que c'était pas assez, et c'est vrai qu'en 3e année, je me suis lancée à faire un double diplôme. Donc j'avais mon diplôme d'ingénieur à faire d'un côté, et j'avais aussi un master en qualité et traitement des eaux de l'autre côté, sur Poitiers. Donc il fallait jongler entre les deux, et finalement j'ai réussi à le faire. J'ai ensuite eu mon master qui m'a permis d'avoir un stage en recherche. Et puis ben, me voilà aujourd'hui en thèse après maintenant bientôt 7 ans après le bac.
Alors, doctorante de deuxième année, est-ce que tu peux nous expliquer un peu au quotidien comment se passe ton travail ?
Alors, au quotidien, on va dire que j'ai la chance de faire plusieurs choses, et c'est ce qui est assez attrayant dans cette thèse. C'est qu'en fait, un jour, je vais être sur le terrain à aller chercher des échantillons, puis l'autre, je vais être au laboratoire à faire des traitements, puis après, je vais changer de laboratoire pour tester une autre machine, et puis du coup, faire d'autres analyses. Et ensuite, je vais revenir faire de l'ordinateur pour traiter. Enfin, au quotidien, c'est très agréable à vivre, parce que du coup, je fais vraiment plein de choses différentes, et c'est ça qui me plaît.
Tu effectues également beaucoup d'actions de médiation scientifique. Récemment, il me semble que tu as participé à plusieurs ateliers avec des primaires, c'est bien ça ?
C'est exact. Grâce au Science Infuse, il y a un programme en fait, qui permet à des scientifiques, hein, que ce soit des enseignants-chercheurs, des chercheurs, de simples doctorants, d'aller au contact des primaires. Donc cette année, c'est la 2e année que je le fais, et cette année, c'était avec des CE2, CM1 d'une école dans le Vieux-Lille. Et en fait, il y a une semaine où ils vont découvrir différents domaines scientifiques. Donc le mien, c'était bien évidemment l'eau. Et ensuite, ils vont avoir une demi-journée où ils vont venir sur place. Donc ils sont venus à l'Institut Chevreul. Je leur ai un peu inculqué les règles de comment prélever de l'eau sur le petit point d'eau derrière l'Iliade. Et ensuite, ils sont venus avec leur échantillon d'eau au laboratoire, leur présenter les machines. Et puis je leur ai dit, bah allez, pourquoi pas faire quelques manips. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour eux de découvrir en fait ce monde qui, bah, finalement, est très peu parlé en fait pour eux, surtout à cet âge.
Et pourquoi c'est important pour toi de faire de la médiation scientifique ?
Ben, on va dire que j'aime beaucoup promouvoir la science, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup dans la société en général, mais plus particulièrement aux jeunes de demain, parce que je vais parler un peu de ma vie personnelle, mais j'ai une sœur et un frère qui ont du coup 14 et bientôt 11 ans, et ils me questionnent beaucoup sur ce que je fais, sur ce que je vais faire, et comment ça fonctionne. Et du coup, je trouve que voilà, c'est très important en fait de partager ce qu'on fait. C'est totalement gratuit. En fait, on promouvoit de la science, on promouvoit de la joie des fois aussi. Et en fait, je trouve qu'on ne dit pas assez que selon le milieu social et selon le genre, bah, on peut quand même faire ce qu'on veut. Et bah voilà, c'est toujours gratifiant de savoir quand ils ressortent de ces ateliers, la grande majorité ont des étoiles dans les yeux. Et puis certains nous disent même qu'ils veulent faire comme nous plus tard. Et je trouve ça magique.
Eh bien, on va terminer avec une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui seraient intéressés ou qui hésiteraient à faire de la recherche ?
Dans un premier temps, si c'est vraiment ce qui vous passionne, ce que vous avez vraiment envie de faire, ben, faut juste pas regretter et se lancer dans les recherches et tout faire pour que vous soyez heureux dans votre vie, que ce soit personnellement et professionnellement. Donc lâchez-vous, tentez.
Merci Manon pour toutes ces réponses. On se donne rendez-vous le mois pro. Ah non, on se donne rendez-vous dans 2 mois puisque c'était le dernier épisode de la saison. Alors je vous souhaite d'avance de bonnes vacances. On se retrouve en septembre. Bonne soirée à toutes et à tous.